Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Legrange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du Tapsi Apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du Tapsi Apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 27e magazine d'Instant Sport. Pas de guignol dans cette émission, que des spécialistes avec Patrick Biancon, journaliste sportif à la Lozère Nouvelle. Bonjour Patrick.
Bonjour, salut à tous.
Tu as eu le match hier avec le meilleur public de France qui balance des bouteilles de bière sur le terrain, qui passe son temps à siffler un ancien joueur de la maison.
Alors j'ai une théorie que je développe depuis plusieurs années, donc je te la réserve pour quand tu veux et je t'expliquerai la différence entre le vrai public et ces quelques guignols, en l'occurrence, qui font ce genre de choses.
On en parlera en seconde partie d'émission. Notre spécialiste basket qui avait raison, il nous avait prédit la victoire de l'équipe de France contre la Serbie pour les championnats d'Europe. Salut Aurélien.
Salut, bonjour à tous.
Et oui, tu avais raison, tu t'étais juste trompé de médaille.
Voilà, il y a eu France-Serbie en finale, malheureusement c'était la petite finale.
Et on s'est quand même fait un peu arnaquer hein, pendant cette demi-finale contre l'Espagne.
On s'est fait un petit peu arnaquer par l'arbitrage, mais bon, c'est des choses normalement qui sont connues à ce niveau. C'est vrai que quand dans le money time, quand c'est serré, les arbitres hésitent souvent à siffler pour pas faire basculer le match d'un côté ou de l'autre, donc... Normalement, on aurait dû s'y attendre et gagner ce match bien avant. Mais
en demi-finale, ça a été l'inverse. Il y a beaucoup sifflé sur Paul Gasol. Dès qu'il avait le ballon, il y avait toujours péno.
C'est ce qu'on dit. Merci d'écouter, Laurent.
Ah, salut, Laurent. Je croyais qu'on parlait de la finale.
Non.
Non, on parlait de la demi.
Non, on parlait de la demi. Alors, il revient après une défaite, ce qui n'arrive pas souvent. Une défaite contre la grande équipe de Monroda. Laurent, Julien, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour tout le monde.
Alors, tu n'as pas sorti de ta spécialité, le coup franc en lucarne de 35 mètres?
Alors, je l'ai sorti, mais c'est pas allé en lucarne.
Ah, mince.
J'ai tiré pas loin de Marvejol, en fait. Ah. J'étais à Monroda, j'ai tiré pas loin de Marvejol.
Ok.
C'est bien parce que Marvejol tient en hauteur. Donc
ouais, on a pu récupérer le ballon. Après,
on va reparler de cette défaite. Parce
vous n'êtes pas obligé.
Oui, c'est vrai, on ne va pas en reparler d'ailleurs. La touche féminine de l'émission, bien qu'on ait Laurent, aujourd'hui notre invitée Stéphanie Julien, directrice départementale de l'UCEP Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être présente. On parle souvent dans cette émission de club sportif lozérien, mais jamais du sport à l'école. Donc ça sera une bonne occasion pour en parler. Mais d'abord, les résultats sportifs du week-end avec le volleyball. Le MVL qui débute idéalement sa saison avec une victoire à domicile 3-7-0 contre Arles, 28-26, 25-16, 25-15. Alors dans les autres résultats, Narbonne perd à domicile contre Saint-Etienne 3-7-1, puis Gouzon 3-0 contre Alès. Alors ça, faudra me dire où c'est. Touac-Tuc 3-1.
C'est Toulouse.
C'est Toulouse.
C'est la réserve de Toulouse qui est en Ligue A. Donc voilà, donc ça c'est la fusion parce que Touac c'est le club universitaire de Toulouse et donc là maintenant c'est le club de volley de Toulouse et donc là c'est l'équipe réserve qui joue à N2.
Ok, je croyais que c'était des biscuits apéro mais pas du tout.
Non.
Ok, en tout cas le Touac-Tuc qui gagne 3-7-1 pardon, contre Saint-Égrève, alors un classement anecdotique bien sûr, c'est la première journée. Mende, Puy-Gouzon, Saint-Étienne, Touac-Tuc avec 3 points en tête du classement.
C'est anecdotique mais c'est quand même mieux d'être en haut.
C'est mieux d'être en haut, c'est vrai. Narbonne, Saint-Égrève, Arles, Alès, 0 points. Alors pas de chance à tomber en même temps que le match de rugby à la télévision. Donc on n'est pas nombreux à s'être rendus au gymnase. Est-ce que tu as eu des échos du match quand même toi Patrick?
Oui, une victoire assez nette, un peu de crispation dans le premier set. Voilà ce qui explique ce score serré. Puis après vraiment une mainmise totale de cette équipe mandoise. Victoire on ne peut plus logique hein, à la maison. En plus, il faut pas oublier que Mende était en N1 la saison précédente, alors que cette équipe de Arles était en N3. Donc, tu jouais contre un promu. Toi, tu étais dans la division supérieure l'année dernière. Donc bon, on voit quand même une différence déjà d'entrée entre les deux équipes. Alors c'est vrai que Arles avait recruté, bon, alors moi ça aussi ça me fait assez marrer quand on me dit ouais, j'ai recruté un joueur de Ligue B, un joueur de Ligue A. Bon, alors là soi-disant il y avait un joueur d'Orange et un joueur d'Avignon. Bon, certes, donc Orange et Avignon c'est des clubs qui jouent en Ligue B la saison prochaine, donc un joueur de chaque équipe a signé dans cette équipe arlésienne. Alors après moi je dis bon, voilà, combien tu as joué en Ligue B? Si c'est sûr que tu joues en Ligue B, mais que tu es rentré sur un point dans un set pour faire un service, parce que voilà, tu es peut-être un peu meilleur au service que celui qui est titulaire. Bon, après, voilà, on peut me dire que tu as joué en Ligue B. Alors, il se trouve que Avignon, c'est une équipe que je connais bien, puisque je suis né à Avignon. Donc, je suis allé les voir jouer plusieurs fois la saison dernière en Ligue B. Donc, le joueur qui a signé à Arles, bon, c'est Karn, il s'appelle Karn. Bon, mais voilà, c'était un gars, il rentrait juste pour faire un service.
C'était pas titulaire.
Ou alors, il rentrait quand il y avait 10 points de retard pour Avignon. Donc, c'est-à-dire que l'entraîneur, il savait que tu avais perdu le 7. Donc, il laissait souffler 2 ou 3 gars pour le 3e ou le 4e set. Et donc, il faisait rentrer les remplaçants. Donc voilà, victoire tout à fait logique du Mans de Volley-Lozère, un bon départ, il le faut, parce qu'on sait que la saison va être très longue, il y a plusieurs phases, il y a 2 phases, bon, il faut y aller dans les 4 premiers, après il y a les play-offs, donc victoire tout à fait logique, et dimanche prochain, déplacement à Saint-Égrève, donc Saint-Égrève qui a perdu son premier match, c'est à côté de Grenoble, donc voilà, il faut enchaîner pour de suite, parce qu'on sait qu'en plus, les points sont gardés. Donc si par exemple tu perds à Saint-Égrève et que Saint-Égrève finit dans les 4 premiers, bon ben tu auras pas les points de cette défaite. Alors que si tu perds à Saint-Égrève mais Saint-Égrève finit dans la poule basse, bon ben là ça aura aucune incidence. Donc importantissime d'engranger les points dès le départ dans ce championnat de N2.
Merci beaucoup Maître Capello. Est-ce qu'on a un mot à dire sur les recrues? Est-ce qu'on sait si elles sont bien jouées ce match?
Oui, il y a eu un recrutement qui a été tout à fait sérieux et solide de la part des Mandois, des dirigeants et de Constant qui a beaucoup œuvré pendant cette intersaison. Bon, tu es un passeur quand même. Oui, quand on me dit un joueur en Ligue B, oui, le passeur, il peut dire que l'année dernière, il joue en Ligue B parce que sur 25 matchs, il en a fait 20 ou 21 en tant que titulaire. Donc là, oui, là, tu as un joueur de Ligue B.
Dans quel club ?
Il était à Saint-Quentin. Donc, bon, voilà, là, c'est une vraie recrue. Bon, tu as aussi cet attaquant réceptionneur qui vient d'Algérie, mais qui a une longue carrière dans le championnat français, aussi bien en Ligue B qu'en N1. Donc voilà, tu as de bonnes recrues, bon, peut-être un groupe un peu moins étoffé que les années précédentes peut-être.
Mais t'es pas en même division,
voilà,
donc.
Exactement, donc pour la N2 je pense que ça suffit largement.
D'accord.
Sachant qu'il y en a qu'un qui monte, donc il faut...
Oui, et bon, il faut être dans les 4 premiers, après tu as une deuxième phase, et sur cette deuxième phase qui sera aussi à 8 équipes, tu as raison de le dire, il n'y a que le premier qui montera.
Ok. Aurélien, si tu veux intervenir, ne te gêne pas.
Ouais, donc le prochain match à Saint-Égrève, ça, je pense que ça va être le premier vrai test de la saison. Il va falloir capitaliser sur cette première victoire. Et effectivement, si on gagne à l'extérieur, ça sera de bon augure pour la suite.
Donc finalement, il ne faut pas forcément viser la première place première phase.
Oui, ça dépend contre qui tu as perdu. Et il faut pas que les gars, les équipes contre qui tu as perdu, soient qualifiées aussi dans les playoffs, parce que tu partiras avec des points de retard par rapport à eux.
Oui, donc finalement, il faut quand même tout jouer. Quoi.
Voilà.
Il faut tout jouer. C'est pas comme au rugby où tu peux finir 5e et être champion. Quoi.
Voilà, exactement.
C'est ça. Stéphanie, je crois que tu t'intéresses de près au volet lozérien.
Alors, pas vraiment. Je connais pas grand-chose en volet. Je le pratique pas. Mais bon, ça, c'est pas pour ça que je m'intéresse pas du tout, mais voilà.
Ok, je suis pas sympa parce que je lui ai demandé avant, elle m'a dit non, je m'intéresse pas, c'est pour ça que j'ai posé la question. Handball, par contre, ça, tu t'y intéresses, je le sais, donc on va en parler. Handball, championnat de France, moins de 18 ans, les filles qui évoluent en National 2 s'imposent à Clermont-Ferrand, 22-20. Prochain adversaire, Saint-Flour. Les moins de 18 ans garçons, eux, s'inclinent sur leur parquet contre Vaux-en-Velin, une ville qui est très forte à Interville, Vaux-en-Velin. 37-23. En pré-national, premier match sous le regard avisé de Laurent, Mandétrie, Clermont-Lérault, 44-19. Donc, avec des buts, je crois que tu as noté qui c'est qui avait marqué durant ce match, Laurent.
Voilà, ben, je crois que tout le monde a marqué, mais donc on peut citer Kevin Bocanegro qui a marqué 7 buts, beaucoup de buts en contre-attaque, donc c'était je pense, une demande du coach d'aller très vite vers l'avant. Donc Kevin qui a fait une très bonne partie. Ensuite, je vois un buteur Marty, chez Fabien Marty. Bon, il a mis 14 buts, il y en a beaucoup sur penalty, mais bon, il faut les mettre aussi. C'était un match très agréable. En fait, l'équipe s'est facilité la tâche en étant très efficace d'entrée de match et donc rapidement a étouffé l'équipe de Clermont-Lérault, pour ne pas dire inexistante. Elle a un peu relevé la tête en deuxième mi-temps, mais c'était, je pense, plutôt parce que les Mandois ont baissé un petit peu le rythme. Quand tu arrives à la mi-temps avec 20 à 4, bon.
Ouais, 4 buts en une mi-temps,
ça se comprend que tu baisses un petit peu le pied, quoi.
Ouais. La mi-temps quand même 30 minutes pour une équipe adverse qui met 4 buts en 30 minutes, c'est quand même rare.
Hein. Ouais. Aurélien.
Pour revenir sur ce que dit Laurent, Fabien Marty qui marque 14 buts sur 14 tirs, je crois, donc il fait du 100% de réussite.
Ouais, chapeau à lui.
Bon entame de saison.
Voilà, donc ce week-end, l'équipe joue en Coupe de France à Brioude. Et donc il faudra confirmer. Les féminines jouent aussi en Coupe de France à Brioude. Donc je me ferai le porte-parole lundi prochain puisque je serai aussi à Brioude.
Ah très bien, tu voilà. Montes comme ça, t'as envie.
Voilà, bah parce que c'est comme ça.
Ok, mais c'est très bien.
Parce que j'ai de la famille là-haut, voilà, tout
simplement. Ah, merci.
Aussi, donc je vais joindre l'utile à l'agréable.
C'est chouette ça.
Il y a le pivot roumain, donc qui faisait son premier match de championnat officiel. Il paraît qu'il a envoyé du lourd. Il a multiplié les deux minutes. Il paraît que c'est vraiment.
Bah, il a pris un carton.
Il a fait du petit bois.
Il a fait du petit bois rouge de
l'équipe adverse. Voilà, bon, il paraît que c'était assez impressionnant. Il les a envoyés un peu balader. Il y avait vraiment une énorme différence physique entre lui et ceux qui étaient chargés de le marquer au cœur du jeu, parce que c'est que pivot. Bon, t'es au cœur du jeu là.
Voilà, en effet, il a fait des débuts remarqués parce qu'il a aussi marqué des buts.
Voilà.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle.
Boringer?
Non.
Il s'appelle.
Le Fetter.
Voilà.
Trois buts.
Je vais rechercher son nom.
C'est ça.
Cornel Mia.
C'est un Roumain, ouais. Qui pourrait travailler dans une célèbre entreprise mandoise de déménagement. Et qui, il a mis 2-3 lattes et l'arbitre n'a pas été coolos puisqu'il l'a sorti, il a gentiment rien dit. Mais ça sera un très bon joueur, il apportera beaucoup dans l'effectif, laissant de la place notamment au petit feu follet qui passera à côté, évidemment.
Ah bon, on sait que l'handball est un sport qui devient aussi de plus en plus physique, hein. Il suffit de le voir.
Au plus
on monte de niveau, bon, on n'a qu'à voir ces matchs d'équipe de France, il y a une dimension physique impressionnante. Et donc même, voilà, bon, c'est sûr, tu es au plus haut niveau régional, mais même à ce niveau-là, c'est vrai que le physique a énormément d'importance. Et d'avoir un gars comme ça dans son effectif, ça va vraiment amener quelque chose en plus.
Voilà, je voulais juste rajouter un petit coucou pour le capitaine Jérémy Roum qui a priori s'est fracturé le nez pendant le match, donc sur un fait de match, il n'y a pas
une petite caresse adverse.
Voilà, et donc bon rétablissement à lui.
On parle de physique, j'ai appris un truc ce week-end, on pourra y revenir dans une prochaine émission parce qu'il y a beaucoup à dire. La Fédération française de handball a enlevé les U16, ce qui veut dire que maintenant, quand les jeunes qui ont 15 ans passent au niveau supérieur, ils passent directement en U18. Ce qui fait qu'il y a des jeunes qui peuvent se retrouver à 16 ans avec des gars qui ont 18 ans, voire plus.
T'as 14, hein.
Il peut y avoir 4 ans d'écart, quoi. À ce niveau-là, c'est énorme, quoi.
Le handball français a une formation complètement hallucinante puisqu'on détient tous les titres. Bon, on est champion avec les seniors, mais on est aussi champion avec les espoirs et les U18. Là, cette année, les sélections françaises. Alors, je sais pas si
championnat
du monde.
Champion du monde, ouais, c'est ça.
Voilà. Donc, on est champion du monde sur les trois catégories d'âge, les plus élevées du hand mondial. Donc, et ça, c'est bon. Si on gagnait un senior, c'était quand même rare. C'est même jamais vu au niveau des jeunes. Et donc, maintenant, il y a un réservoir absolument hallucinant de jeunes joueurs français. Bon, ça promet vraiment une dynastie qui est pas prêt de s'arrêter, je pense.
Pour compléter ce que tu dis, il y a un des joueurs des moins de 18 qui est le fer de lance de cette équipe U18, qui a un nom célèbre. Vous savez comment il s'appelle?
Non.
Son prénom c'est Melvin et son nom c'est Richardson.
Ah oui, Richardson.
Ouais. C'est le fils à son père.
C'est le fils, ouais. Voilà. C'est vrai qu'il joue dans ses équipes de jeunes. Il a été champion du monde cet été.
Voilà. Ah mais d'accord, pas amende.
Non.
Non, je croyais amende.
Tu suis. D'accord.
Excuse-moi. Les régionales féminines, premier match et une victoire 20-19 à Lunel Marcia Vergès. Donc, qui sont également premiers au classement, hein, comme les garçons. Voilà, les classements, on va vite y passer parce que c'est la première journée. Nos amies féminines demandent, Laurent.
Ouais, donc j'ai eu Marie qui était très satisfaite du match. C'est pas évident d'aller gagner à Lunel déjà. Et puis surtout du comportement de toutes ses coéquipières, puisqu'il y en avait quelques-unes qui étaient nouvelles, elles ne se connaissaient pratiquement pas. Donc voilà, félicitations aux féminines et à Yvelise pour son coaching.
Ok, c'est tout.
Yvelise, c'est la nouvelle coach. Hein,
ah, très bien.
Tu sais, tu suis
mais
pas.
Non, mais personne ne sait si tu le précises voilà. Pas. Hein.
Bah, il faut l'inviter d'ailleurs.
Pour l'inviter, ouais, bien sûr.
Ouais, on a beaucoup de gens à inviter. Aurélien, sur le hand, tu as un mot à dire ? Tu n'es pas obligé
de
dire. Tu passes ton tour.
Non, mais plus 25, pour en conclusion, quand tu gagnes un match de 25 buts d'écart, là aussi, je pense que ce n'est pas tous les jours que,
pour les garçons,
que ça doit arriver. Ouais.
Ouais. Après, ils ont une équipe de National 3, peut-être, dans un championnat de pré-national.
Je pense.
On sait qu'il y a énormément d'écart entre la National 3 et la pré-national. Donc, ouais. Ça doit. De toute façon, l'objectif, c'est de remonter dessus.
Exactement.
Hein. Du coup, grâce au goal average, justement, Mann, après le premier match, son premier.
C'est
grâce,
ça.
Grâce au goal average.
Ouais, absolument. Pas de basket, non, vous êtes les seuls, on reprend pas.
C'est ça, un petit peu flemmard, donc nous on a encore un peu de temps pour se chauffer, pour s'entraîner. Donc rendez-vous est pris le premier week-end d'octobre.
Non mais c'est normal, tu peux pas priver Mann de ces internationaux qui étaient au championnat d'Europe. Tu peux pas faire commencer le championnat à Mann alors
qu'ils sont Nouvelle-Zélande aussi.
Deux ou trois internationaux, c'est impossible.
Ouais. D'ailleurs, Luc Respand, Nouvelle-Zélande, qui a que de la pluie. Là, je vois ses photos. Là, j'ai vu des photos. Ouais. Il n'y a que de la pluie tout le temps. Enfin, bref. Oui. Rugby, Coupe du Languedoc, match reporté, huitième de finale.
Tiens, d'ailleurs, attends, je voulais revenir sur le basket. Vendredi soir, j'étais à l'entraînement du basket loisir. Je vous invite tous à y participer parce que c'est mixte, c'est sympa.
Mais tu y étais pour jouer ou tu étais.
Non, j'étais parce que j'ai ma fille qui fait du sport dans la même salle. Donc, du coup, j'en ai profité pour essayer de voir Aurélien, voir s'il taquinait un petit peu le ballon.
Il n'est pas en loisir, Aurélien.
Et il n'est pas en loisir. Donc je ne l'ai pas vu.
Ce n'était pas mon créneau d'entraînement.
Non, c'est le capitaine. Non, c'est une.
Bon, pour tous ceux, on peut passer un message. Tous ceux qui aiment le basket et qui veulent.
C'est à quelle heure ?
Ah, tout à fait, c'est très sympa. C'est le vendredi soir de 19h30 à 21h.
Voilà. Et donc c'est mixte, tout niveau, j'imagine.
Exactement.
Et il y a du monde en plus. Je pensais t'y voir, Ludo.
Mais je suis trop individuel. Moi, je passe pas la balle, donc ils vont jamais m'accepter.
Ah ouais,
de venir, je vais faire que des tirs.
C'est un shooter. C'est
je suis un shooter, moi. Hein, tu vois, Ivan Fournier quand il réussit,
loisir,
c'est
moi. Il y a pas de faute. Tu tireras aucun penalty déjà. Enfin, là, c'est franc.
Merci, Laurent.
Bon, bref.
Oui, allez, on revient au rugby, mais c'était...
C'était une bonne anecdote.
C'était très bien, ouais. Ouais. Coupe du Languedoc, match reporté, huitième de finale au complexe Delmas. Le RCML est éliminé après sa défaite 19-26 contre Servian-Bougeant, une équipe qui évolue à un niveau supérieur en honneur. Pour le RCML, deux essais de Nibili, 51e, 63e, trois pénalités, 10e, 37e, 79e, des pénalités de Vessade. Et à noter un gros coup dur avec la grave blessure de l'entraîneur-joueur Loïs Morisson, touché à la cheville. Après la blessure, on y reviendra, de Fadil au foot. Maintenant, celle du capitaine-entraîneur du RCML. Enfin, il n'est pas capitaine, mais de l'entraîneur-joueur. On en a parlé la semaine dernière. Un très, très bon joueur.
C'est le gros coup dur, forcément, puisque c'est la recrue phare du RCML cette année. Un poste stratégique de coach et aussi sur le terrain. Donc, on sait toute l'importance d'avoir les relais sur le terrain pour les autres joueurs. Bon, cette Coupe du Languedoc, ça sert aussi vraiment pour se préparer au championnat. Et donc, juste avant le début de ce championnat de promotion d'honneur, ben, tu perds ton capitaine. Donc, on imagine toute la déception qui doit entourer l'équipe et les dirigeants. Bon, surtout que tu commences dimanche prochain, premier match à la maison. Donc, vraiment un gros coup dur pour cette équipe et pour le club.
D'ailleurs, du coup, il joue dimanche prochain. Il y a un changement pour le foot qui jouera à midi, c'est ça ?
Oui, donc je viens d'avoir l'info. Le match de Coupe de France de l'AFL aura lieu à midi.
Contre Saint-Gilles.
Contre Saint-Gilles, pour une fois à domicile. C'est rare, donc c'est bien. Et donc à midi. Voilà, à midi, vous pouvez passer une après-midi sport au stade Delmas.
Et oui, parce que le rugby jouera après à 15h.
Peut-être, à moins qu'il y ait des prolongations.
Ouais, mais on commence à midi, ouais. Faut pas aller au pénalty, sinon, ouais.
Genre. Non, et même, c'est pas 15h, 14h, non, ouais. C'est bon. Ça passe. Oui, de toute façon, on savait que ça serait difficile, une équipe qui est dans un championnat, dans une division au-dessus. Voilà, le problème, c'est ce coup dur. Sinon, quand même, deux essais, trois pénalités, c'est bien.
Ça prouve qu'ils sont en forme. C'est bien, Nibili, c'est un joueur emblématique de cette équipe, on le sait. Il joue en troisième ligne, en principe. Bon, beaucoup de hargne, beaucoup d'explosivité, c'est un joueur majeur de cet effectif, donc c'est pas surprenant que ce soit lui qui soit à la conclusion de ces essais. On sait que le pacte demande aussi, c'est un des points forts de l'équipe, donc voilà, il y a tout un travail derrière bon, pour arriver à marquer des essais, quoi.
Ok. Football, promotion d'honneur B pour son premier match. Badarou s'incline à domicile face au Vigan 2-1, donc un premier match difficile, mais bon, il faut que Badarou, qui rentre dans une division supérieure à celle de l'an dernier, s'acclimate à cette nouvelle division. Le but pour Badarou, Laurent, c'est ?
C'est Nelson
De Albuquerque.
Qui a eu joué déjà par le passé à Badarou, qui jouait au club du Blémar là, ces dernières saisons. Il en était le président, coach, attaquant, capitaine. Et donc, qui est revenu dans ses terres de Badarou. Voilà.
Ok.
Excellent joueur, Nelson. Excellent joueur. Bon, c'est vrai.
Il y a le gabarit un peu de Mathieu Valbuena.
Valbuena, c'est vrai qu'il est un peu ce gabarit-là. Bon, c'est vrai qu'au Blémar, c'était vraiment le joueur phare de l'équipe. Bon, le Blémar a pris une autre décision. Ils ont décidé de tomber volontairement dans la plus petite division du football lausérien. Bon, voilà, Nelson, quand même, lui, il a quand même l'ambition de. Et on savait qu'il avait les moyens de jouer plus haut, donc bon, en PHEB, il a largement le niveau pour jouer, donc c'est pas une surprise que ce soit lui qui ait marqué le premier but de l'équipe.
Il se dit que pour son retour au Blémar, il ne se fera pas siffler. Les supporters du Blémar ont dit.
Non, et pas de potence non plus accroché dans les tribunes.
Et ouais, parce qu'ils sont sympas
les supporters du Blémar.
Marvejols, 3-1 à l'extérieur chez la réserve de Fabregues en division d'honneur régionale. But, bon, change pas, hein, chaque semaine c'est pareil. Diabaté, 38e, Diallo, 43e, 63e. C'est bien, Marvejols, belle victoire.
C'est vrai que, ils étaient présents à l'émission, Dominique Monteil et le vice-président la semaine dernière. Bon, on avait dit, Fabregues, une réserve, une équipe de CFA2, premier match pour Marvejols en DHR, puisque n'oublions pas qu'ils sont promus. Bon, on a vu toutes les difficultés financières de l'intersaison. Et puis là, une victoire 3-1 assez nette, un peu surpris quand même par l'ampleur de ce score, surtout à l'extérieur. Excellent début de Marvejols. Bon, on avait annoncé la semaine dernière qu'on les voyait très bien se maintenir. Bon, ils confirment, le championnat va être très long, c'est une poule à 13 équipes en plus. Donc voilà, peut-être, on sait que Marvejols sera peut-être un peu court au niveau de l'effectif. Donc c'est vrai que c'est important de marquer des points d'entrée. Et, chapeau à eux, puis comme tu dis, hein, c'est vrai, on voit souvent les mêmes joueurs. Bon, Diallo, Laurent le connaît bien, il a joué un peu à Mende aussi. Et puis Diabaté, je peux vous dire que franchement, c'est un sacré joueur.
Oui, surtout, comme nous disaient les dirigeants la semaine dernière, l'objectif premier du club est de jouer le maintien. Donc pour un premier match à l'extérieur, aller chercher les 3 points, ou les 4 d'ailleurs.
4,
les
4 points. Au foot, c'est 4 points.
Sur un match à l'extérieur, c'est important. Je pense que tous les points vont compter pendant la saison. Donc déjà, s'ils arrivent à capitaliser sur le prochain match à domicile, ça sera un très bon début de saison et on pourra avoir de bons espoirs pour la suite.
Ouais, c'est vrai que Fabregues était promu aussi, mais on dit souvent que les championnats de l'Hérault sont plus compliqués, plus durs que ceux de Gare-Lozère. Et bien là, on voit que finalement, Marvejols est promu en Gare-Lozère, Fabregues est promu de la PHA de l'Hérault, puis finalement, Marvejols l'emporte 3-1 à l'extérieur.
En DH Auvergne, eux aussi réussissent bien leur entrée en matière. C'est l'ENL, l'équipe de l'Antoine Nord-Lozère, qui gagne à l'extérieur 3-2 à Chamalières, but de Fontugne, Rua et Gaillard. Au classement, donc là on le donne parce que c'est pas le premier match, hein, ça fait quelques matchs qu'ils ont repris. C'est le troisième match et l'ENL est premier ex aequo avec Polignac, Cournon 2 et Saint-Georges. Donc première après plusieurs matchs.
Là aussi, c'est remarquable parce que t'es promu, donc tu retrouves cette DH et tu fais deux matchs à l'extérieur, un match à domicile et tu as deux victoires, un match nul. Bon, là aussi, on parlait de joueurs d'expérience, mais c'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes noms qui reviennent. Hein. Bon, tu les connais bien, Laurent, Vivien Fontugne, Fad Gaillard, on le connaît aussi, il a joué à Marvejol un peu. Bon, voilà, c'est de sacrés joueurs, ils ont de l'expérience, voilà, ils savent comment gérer les matchs. C'est une équipe solide aussi. Hein.
Ouais, c'est en fait ce week-end à Chamalières, donc ils perdaient rapidement 2-0. Finalement ils ont eu les ressources pour venir et l'emporter. À noter aussi que Chamalières a fini le match à 9, donc ce qui a peut-être permis aussi de l'emporter. Mais bravo au club de l'ENL. Et puis pour info, j'ai invité à une prochaine émission Vivien Fontugne, mais en lui mettant une petite carotte, c'est-à-dire qu'il viendra, puisqu'il souhaite venir, que s'il marque, que quand il marquera son troisième but du championnat. Donc, bon, on ne sait pas du tout.
Il est à deux,
lui,
là,
parce
déjà.
Que ça peut être la semaine prochaine.
Oui, il est déjà à deux.
Mais voilà. Je crois que ça sera plutôt vers Noël, quoi.
Non, mais plus sérieusement, quand tu vois ce début de saison de l'ENL, tu te dis, ben, pourquoi pas aussi le même objectif que l'AFL. On sait que l'AFL vise cette CFA2 en étant dans la Ligue Languedoc-Roussillon. Ben, l'ENL, étant dans la Ligue Auvergne, ouais, pourquoi pas? Tu peux te dire, pourquoi ne pas viser cette première place et cette accession en CFA2 quand tu vois cet excellent début de saison de l'ENL?
La réserve de l'AFL à 10 pendant une bonne partie de la rencontre obtient un bon match nul à Nîmes, Lassalien, but partout, carton rouge pour l'AFL, Préra, but pour Camizulis pour l'AFL. Donc ça, on va passer assez rapidement, on donne quand même le résultat. Division d'honneur, Mende sans Fatigol.
Alors, par contre, j'avais prévu un petit
coach. Tu vas arrêter de me couper parce que moi, je vais te couper le micro, monsieur Laurent Julien.
Je voulais donc féliciter le groupe de...
Il passe des dédicaces, voilà, il me coupe. Dédicace.
Féliciter le groupe de Max Tessier parce que c'était pas évident, c'était mal engagé déjà avec un carton rouge et aussi un joueur qui a fait un malaise, donc je voulais lui passer un coucou lui aussi, c'est Florian Stallier qui se remette de ses émotions et au gardien Romain Delaine qui a stoppé un penalty vers la fin du match, donc voilà, je voulais pas que ça passe inaperçu tout ça.
Là, par contre, c'est deux équipes qui étaient reléguées, donc qui ont joué contre déjà en DHR l'année dernière, Nîmes-Lassalien et la réserve de l'AFL. Donc, elles se retrouvent toutes les deux à l'étage inférieur. Et bon, c'est vrai, après cette saison hyper compliquée de l'année dernière, c'est bien de repartir sur un bon match nul à l'extérieur, avec en plus un carton rouge assez rapidement dans la partie. Ça fait penser un peu à ce qu'on a vécu hier soir lors de ce fameux match au Vélodrome. Ouais. Hein, Laurent,
on va en parler. Exactement ça. On va en parler. Tu n'as pas d'autres dédicaces à faire, fais-les tout d'un coup comme ça.
Par contre, Ludo, ce qu'il faut...
On verra, je verrai après.
Ce qu'il faudrait dire, c'est que tu as reçu un petit mail la semaine dernière et c'est vrai qu'il faut...
Exactement. Voilà, alors, il y a une erreur la semaine dernière.
Il faut faire très attention à ce qu'on dit et il faut remercier Florian Almeiras qu'on avait reçu l'année dernière à cette émission. Il jouait alors à Châteauneuf et donc cette année il a signé à Langogne et donc c'est vrai qu'on a parlé du parcours de Langogne en Coupe de France en ce début de saison et on a dit que Langogne avait pris 4-0 à Blavozy et donc je me suis trompé donc je fais mon mea culpa. En fait le match a été beaucoup plus serré que ça puisque il y a eu à un moment donné égalité 2-2 et il a fallu que Blavozy attendre vraiment la fin de match pour marquer le troisième but et même le quatrième but était intervenu dans les arrêts de jeu et Langogne avait eu deux ou trois occasions assez nettes pour revenir à 3-3 et donc arracher cette prolongation. Donc quand on sait que Blavozy évolue en DHR et donc Langogne est promu à ce qu'on peut dire peut-être à la PHA de la Ligue Auvergne, donc on voit toute la différence de niveau qu'il y avait. Donc merci Flo de nous écouter d'abord et puis de nous rectifier quand je fais des bêtises. Et pour en terminer avec Flo, il s'est illustré ce week-end puisque Langogne en championnat pour son deuxième match a remporté sa deuxième victoire à l'extérieur à Brassac 2-1. Et donc, il a marqué le premier but de son équipe. Après, l'équipe adverse a égalisé. Et Langogne a arraché la victoire à la dernière minute. Donc, deux matchs de victoire pour un promu. Rien à dire. Super début de saison de Langogne.
Eh oui, on est écouté. On est beaucoup écouté dans cette émission.
Et Et pour finir aussi, j'ai reçu là un texto de notre ami aussi Damien Louis qu'on avait reçu à Saint-Georges. Donc lui, il joue toujours à Saint-Georges. Et donc c'est vrai qu'on parlait que le coup d'envoi de l'AFL avait été reporté d'une heure à la Grande Motte en Coupe de France. Donc Saint-Georges, eux, à la Canorgue, recevaient Narbonne. Et là aussi, le coup d'envoi a été repoussé, là, que d'une demi-heure, parce que Narbonne, bien sûr, a eu aussi beaucoup de difficultés à monter en Lozère. Donc ça va dans les deux sens. Parce que certains disaient, si la Grande Motte avait voulu, on aurait pu mettre l'AFL forfait. Mais si Saint-Georges aussi, peut-être, avait voulu, ils auraient pu mettre Narbonne forfait, puisque le coup d'envoi a été donné avec une demi-heure de retard. Donc ça marche aussi dans les deux sens. Il fallait le souligner. Et merci Damien de nous écouter et de m'avoir fait passer cette info.
Allez, on accélère parce qu'on est en train de recevoir des mails qui nous disent « Mais on n'entend pas Stéphanie, on va entendre l'UCEP. » Ça arrive, on finit avec l'AFL, l'équipe 1. Donc je le disais avant de me faire couper par Laurent. Sans Fadigol, Mende s'impose à Latte 2-1. But pour Latte de Babin à la 89e sur pénalty. C'était déjà joué car Mende avait marqué à la 62e avec Barondon. Garbi à la 81e. Au classement, Bagnoles-Pont, premier 10 points, Perpignan, Canet, deuxième 9 points, troisième Mende 8 points, mais un match de moins, donc à 4 points, on peut être premier si on gagne à la Grande Motte ce match en retard. Argelès 8 points, Narbonne 7 points, on s'arrête là, etc., etc. Il y a des matchs en moins. Déjà, un point sur la blessure de Fadil, donc c'est le ménisque, il va se faire ou il s'est fait opérer?
Non, il s'est fait opérer mardi dernier. Hypothèse optimiste, un mois d'arrêt, puis sûrement un mois et demi, et puis si ça met un peu plus de temps, deux mois. Donc, coup dur, hein, un gros coup dur pour cette équipe mandoise. On sait, moi je le dis et j'ai pas peur de le dire, pour moi il y a une équipe avec Fadil et une équipe sans Fadil. Et voilà, excellente réaction. On sait qu'à Latte, c'est jamais facile. L'année dernière, il y avait eu une défaite qu'on a traînée tout au long de la saison et qui a fait mal. On voit l'importance de bien commencer un championnat. Et c'est vrai que notre ami coach Christian Massiello l'a dit de suite. Hein, il faut intégrer ses premières places, deux, trois places d'entrée pour pas être obligé de courir après les premiers en fin de saison. Donc là, deux matchs de victoire, superbe victoire. Moi, on m'a dit un match totalement maîtrisé, Laurent. Tu as des échos, mais match totalement maîtrisé.
Les mêmes échos.
Mi-temps solide, et puis après, même une énorme occasion en début de deuxième mi-temps. Et puis après, finalement, pour l'AFL, et puis après, finalement, c'est deux buts et un pénalty anecdotique à la fin. Quoi.
C'est vrai que, vu de l'extérieur, ça a quand même, on a l'impression que c'est quand même un groupe très soudé.
Ouais, et c'est vrai. Et qui fait bien le lien.
Et parce que, effectivement, avec toutes les difficultés avec l'entraîneur qu'ils ont eu en début de saison, plus maintenant la blessure de leur leader technique,
capitaine
et
de vestiaire aussi,
leader dans le vestiaire, c'est vrai que ça a l'air du coup d'être un groupe très soudé et qui fait tout pour ne pas se laisser abattre.
C'est vrai, tu fais bien de le souligner. Il y a vraiment une union, c'est vrai, une forte union entre tous ces joueurs de l'AFL.
Ouais, donc ça fait en gros presque 10 matchs de loupé si on comptabilise. Si c'est
ouais,
plus d'un mois et demi.
Ouais, tu as la Coupe de France, tu vas avoir un peu la Coupe en début de saison, heureusement. Bon, ben là, tu vois, dimanche prochain, tu as la Coupe. Donc le championnat, c'est que dans 15 jours.
C'est 4 matchs.
Ouais, c'est 4 matchs.
Après, il y a la rééducation.
Bon, un mois et demi, bon, 6 matchs.
Ouais, non, c'est avec la rééducation.
Ça peut faire 2-3 matchs de championnat. Quoi. Ouais.
Ah, bon, c'est pas énorme non plus, donc. Ouais. À la limite, on laisse tomber la coupe.
Espérons que ça se cicatrise bien, quoi. Espérons que ça se cicatrise.
Je sais pas non, si là, la les coupe, dirigeants qui écoutent là, sont d'accord.
Non,
avec
mais
toi.
La coupe, bon, joueurs, bon. Tu joues dimanche, tu reçois en plus chez toi. Bon, Saint-Gilles, DHR, bon, une division en dessous. Bon, tu as les cartes en main pour passer au cinquième tour. Après, c'est la coupe, hein, c'est sûr.
Après,
hein,
tout peut arriver. Possible.
Mais en fait, tu as les cartes en main pour passer
c'est
au cinquième tour.
C'est la coupe de quoi ce week-end?
De France.
Ah, de France, ouais.
Et d'ailleurs, Marvejol reçoit Vergès, qui lui aussi est en DHR. Et donc, Marvejol et Vergès sont dans la même poule en championnat. Donc, il y aura des revanches aussi en championnat. Vergès qui a gagné à l'extérieur ce week-end aussi, comme Marvejol. Donc, là aussi, match explosif dimanche à 15h à Pinoton entre Marvejol et Vergès.
Ok, très bien. Mais on va suivre ça avec intérêt. Avant de parler, de passer à notre invité, j'ai vu que Onka et Somba étaient titulaires en CFA2 chez la réserve de Bastia ce week-end. Ils ont ramené un bon match nul. Donc voilà, c'était à noter.
Oui, non, mais c'est vrai. Tu fais bien de le dire. C'était deux titulaires indiscutables l'année dernière au sein de l'AFL. Bon, ils sont aussi titulaires en CFA2. C'est-à-dire quand même, bon, ça avait leur potentiel aussi, hein, oui. Aussi bien Alex et Somba que Destin. C'est pas une surprise de les retrouver au niveau supérieur.
Alès qui fait un bon début de championnat.
Excellent début de championnat.
Ouais. Toutes les équipes de la région font les mêmes actes, d'être allé gagner à l'extérieur et classé quatrième.
Poulain aussi. Ouais.
Second derrière l'équipe réserve de Montpellier. Fabregue aussi. Fabregue est classé milieu de tableau. Donc toutes les équipes de la région gazent bien au niveau régional.
Et Andrézieux, ils en sont où?
Andrézieux, on
ne sait pas.
Mais alors tu fais bien de le dire parce que l'autre fois...
Andrézieux, on peut plus entendre parler.
Non mais l'autre fois j'ai eu des infos. Extraordinaire début de saison d'Andrézieux qui va jouer certainement la montée cette année.
D'accord.
Ouais, oui, j'ai oublié que tu avais eu
un crève-cœur.
Un crève-cœur là-bas, oui. Enfin, allez, on va parler de sport scolaire un peu avec Stéphanie Julien, directrice départementale de l'UCEP. Donc l'UCEP qui intervient dans le sport scolaire en primaire, c'est ça Stéphanie?
Oui, c'est bien ça, à l'école publique.
Voilà, alors quel est le principe un peu de l'UCEP? Qu'est-ce que ça veut dire déjà, UCEP?
Alors c'est l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Et alors le principe, c'est une association et chaque école est libre d'adhérer ou pas à l'UCEP. Et donc l'UCEP au niveau départemental propose tout au long de l'année des rencontres sportives pour les enfants des écoles publiques.
Il y a beaucoup d'écoles qui sont affiliées à l'UCEP.
Alors en Lozère, on a pas mal d'écoles, oui, on a 48 associations, enfin on avait l'année dernière puisque cette année c'est en cours d'adhésion là, donc on n'a pas encore les chiffres. On avait 48 associations et ça représente à peu près 70% des enfants scolarisés à l'école publique. Donc ce qui est un beau score puisque en termes de taux de pénétration, on est le premier département de France. Donc on peut être fier.
Voilà, alors comment ça se passe? Donc vous établissez avec les professeurs de PS qui dans les écoles sont affiliés à l'UCEP un programme de sport, vous mettez en place un événement, eux travaillent en attendant cet événement, comment ça se passe?
Alors c'est un petit peu comme ça, sauf qu'à l'école primaire ce sont pas des profs de sport mais des instituteurs ou des professeurs d'école, donc ils sont polyvalents, quoi, ils font toutes les matières, et dans leur programme d'école, effectivement, ils ont de l'EPS à faire obligatoirement. Donc nous, on fonctionne en comité départemental, on est une petite vingtaine de personnes à travailler sur le projet de l'UCEP, sur l'année scolaire en fait. Et on propose donc aux écoles, aux enseignants, des rencontres sportives diverses et variées. Donc on essaye de pratiquer un petit peu de tous les sports. Et donc les enseignants qui souhaitent participer à ces rencontres mettent en place avant la rencontre dans leur classe avec leurs élèves un cycle d'apprentissage. Et en finalité de ce cycle d'apprentissage, en fait, viennent participer à cette rencontre sportive qui permet donc de donner un peu plus de sens aux apprentissages à l'école et en même temps de rencontrer aussi d'autres enfants, d'autres enseignants. Parce que ben, quand même, la caractéristique de la Lozère, c'est d'être un département très rural avec des écoles parfois très retirées et qui sont un petit peu seules dans leur coin. Donc ça leur permet aussi de se rencontrer avec d'autres, quoi.
Voilà, on parle pas beaucoup de l'UCEP parce qu'en fait, il n'y a pas finalement de notion de compétition. L'UCEP, c'est vraiment plus de la découverte de sport en primaire, on sait.
Voilà, l'UCEP, il n'y a pas du tout de compétition. Alors, il nous arrive quand même d'organiser des tournois sur des sports co, par exemple. Mais au final, on n'a pas de classement, on n'a pas tous les enfants repartent avec leurs mêmes récompenses et ainsi de suite, quoi. Donc, on n'est pas l'objectif de l'UCEP, c'est pas de faire de la compétition, c'est effectivement de faire découvrir le sport, c'est de faire pratiquer le PS à l'école, de donner du sens, de permettre aux enfants de se rencontrer, d'échanger, de travailler également sur des notions quelquefois ou de développement durable, enfin de lier le PS avec d'autres notions, style développement durable, la santé, le handicap, etc. Voilà, on travaille tout autour de ça.
Patrick ?
Non, mais c'est vrai qu'on tire assez souvent sur le sport, une certaine partie de soi-disant, entre guillemets, intellectuel, en disant que le sport, ben, c'est vrai, ça génère du dopage, ça génère de la violence. C'est vrai, il faut pas le contester à ce niveau-là, mais le sport, avant tout, quand même, ça amène beaucoup de positifs et c'est une formidable école de la vie. En plus, quand tu es jeune, tu débutes, voilà, tu es avec tes parents, bon, parfois tu es fils unique ou fille unique, et bon, ben voilà, tu fais du sport, c'est génial, tu es avec des copains, tu apprends tout un tas de règles qui vont te servir pour plus tard. Ben oui, il faut respecter son partenaire, oui, il faut respecter son adversaire, oui, il faut respecter certaines règles, oui, il faut respecter les arbitres, oui, il faut respecter ton entraîneur. Et donc ça, le sport, et en particulier le sport en milieu scolaire, mais permet d'acquérir et de grandir. Voilà, on sait aussi que tout ce que ça peut avoir au niveau de la santé, hein, On sait que, ben, comme dans tous les pays dits industriels, ben oui, il y a aussi des problèmes d'obésité, même chez des jeunes enfants. Et ben voilà, le sport aussi, ça permet de se dépenser, de lutter contre cette sédentarité aussi, hein, d'avoir toutefois la PlayStation dans les mains. Ben oui, non, il y a autre chose. Et nous, on en est convaincus, puisque on fait du sport. Depuis toujours, à notre modeste niveau. Et bon, moi, ça m'a appris beaucoup de choses, et ça permet, voilà, ça t'acquiert un mental, tu as cet esprit de compétition aussi, hein, parce que tu fais du sport pour participer, mais bon, après, quand tu es dans un championnat, même à tout niveau, bah, tu as envie de gagner aussi, donc tout ça, c'est bon pour les gamins, et donc moi, je veux bien qu'on tape sur le sport, mais il faut aussi quand même rendre justice et rendre hommage à tous ces bénévoles ou à tous ces professeurs, mais qui permettent justement aux gamins, aux jeunes de faire du sport.
C'est pour ça qu'on fait venir l'UCEP aujourd'hui, justement parce que quand tu as commencé à parler de respect des règles, Laurent a complètement décroché. Voilà, il faisait avec son téléphone, il jouait.
Je reçois des messages d'auditeurs, c'est pour ça.
Ah, très bien. On fera un point après sur ces messages. Donc des événements, là par exemple, c'est des événements qui collent à l'actualité que vous proposez ?
Alors, on essaye, oui, de coller un petit peu à l'actualité sportive, internationale, nationale. Donc là, par exemple, pour cette année, on met en place une rencontre basket au mois de décembre, donc en lien avec l'Eurobasket, même si c'est pas tout à fait la même période, mais bon, on va travailler un petit peu.
Ils sont en train de le travailler maintenant à l'école, avant
pour
que...
Pour le préparer.
Pour le préparer.
Voilà.
Ouais, on va en parler avec Aurélien, ça.
On va travailler sur le foot, puisqu'il y aura l'Euro 2016, là, donc on va faire des rencontres foot. Voilà, on essaye de coller un petit peu aux grands événements, et du coup, on en profite sur ces rencontres pour aussi travailler le côté un petit peu culturel par rapport aux activités sportives qui se jouent au niveau international, sur les pays qui participent, sur où est-ce que ça se passe, sur les joueurs, etc. quoi. Donc il n'y a pas que le volet sportif non plus, on travaille aussi sur ce côté culturel.
Moi qui suis trop âgé comme Patrick, on s'en souvient plus. Aurélien, toi qui est plus jeune que nous, tu as une mémoire de cette époque, de je sais pas si tu faisais partie d'une école affiliée à l'UCEP à faire justement manifestations.
Tout à fait. Moi j'ai de très bons souvenirs justement de ces activités à l'école à l'UCEP. C'est vrai que au-delà de l'aspect sportif, etc., il y a une dimension conviviale et amicale qui est très importante, et c'est vrai que moi ça me laisse des très bons souvenirs. Alors nous, à l'époque, je me rappelle qu'on faisait des compétitions entre écoles. Je sais pas si apparemment ça n'existe plus, mais c'est vrai que
à l'école primaire.
Ouais, à l'école primaire.
Alors, on c'est pas vraiment de la compétition, on peut pas appeler ça des compétitions, mais on a quand même, bon, par exemple, sur notre rencontre basket qu'on va faire au mois de décembre, on aura un tournoi où chaque école va amener une équipe, deux équipes, trois équipes selon son effectif, et on va organiser un tournoi. Donc forcément, il va y avoir un gagnant, parce que ben forcément, quand on fait du sport, ben il y a un gagnant, un perdant, c'est aussi ça, faire du sport, apprendre à gagner, apprendre à perdre. Mais au final, on va pas faire un classement, on va pas. Même si on l'annonce, le premier aura la même récompense que le dernier, quoi. Ça sera pas, voilà.
J'imagine bien Laurent dire, non, je suis premier, la médaille, à moi.
Je n'ai pas le même lot que le dernier.
J'ai une plus grosse médaille.
un goûter supplémentaire, déjà, c'est très bien.
Sous quelle forme, donc, c'est une association? Il y a quoi, un comité directeur qui le compose?
Alors, au niveau donc départemental, effectivement, on a un comité directeur, un comité départemental qui est composé, je vous disais tout à l'heure, d'une vingtaine de personnes à peu près. Donc, il y a des enseignants, bien sûr, il y a des enseignants retraités, il y a des conseillers pédagogiques en EPS, il y a des personnes qui sont pas du tout enseignants, mais qui peuvent être éducateurs sportifs aussi, et qui peuvent être parents d'élèves, par exemple, et qui ont envie de s'investir dans la vie de l'UCEP. Pourquoi pas? C'est ouvert à toute personne qui aura sa licence à l'UCEP, en fait, hein. Donc voilà, ce groupe-là se réunit à peu près 3-4 fois par an pour travailler sur le projet de l'UCEP, sur les diverses rencontres, sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. quoi.
Vous faites rien pour la Coupe du Monde de rugby ?
Alors pour la Coupe du Monde de rugby, on l'a fait l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a fait, le 30 juin, on a fait une journée rugby où on a travaillé aussi sur cette Coupe du Monde. Enfin, voilà.
Donc le prochain rendez-vous, c'est le basket, c'est ça ?
Alors, le prochain rendez-vous, là, le prochain qui arrive là tout de suite, c'est-à-dire vendredi, c'est une rencontre pour les maternelles. Donc là, on n'est pas forcément sur le lien avec l'actualité, mais bon, il en faut pour tout le monde aussi. Donc, sur des maternelles où on va faire de la multi-activité. Donc là, c'est leur faire découvrir des activités adaptées à l'âge des enfants de maternelle, quoi. Donc, ils vont faire de l'athlétisme, des jeux collectifs, des jeux d'opposition. On travaille aussi avec la prévention Maïf sur la sécurité routière avec des petits vélos. Voilà, des activités de ce style-là. Ensuite, on aura début octobre, il y a des crosses, donc course en durée. On a un cross qui aura lieu sur Roufiac et un sur Lajeau. Ensuite, on aura en novembre, début novembre, des jeux de raquettes. Et enfin, en décembre, donc, la fameuse rencontre basket. Voilà. Donc, pardon, grosso modo, on a... on va dire une rencontre par mois à peu près, en sachant que la rencontre par exemple maternelle, là, on l'a fait 5 fois, la même à des endroits différents.
Oui, pour toucher un peu toutes les écoles affiliées.
Voilà.
Ok, merci beaucoup Stéphanie d'avoir attendu pour venir nous présenter l'UCEP dans cette émission de sport.
Eh bien, avec plaisir.
Voilà, pour parler de sport scolaire, c'est important. On va faire une pause musicale, comme ça on va pouvoir te laisser aller manger. On sait que tu nous as donné du temps, mais que tu as du travail aussi à faire derrière.
Oui,
et surtout qu'après, on va parler de l'OM, donc l'esprit d'équipe, les belles valeurs. Eh bien, ça va un peu partir dans cette émission, dans cette seconde partie. On fait une pause musicale avec The Strokes et on revient tout de suite. Allez, de retour, on parle de sport national, international. On va bien entendu commencer par la Coupe du Monde de rugby. Il nous l'avait annoncé.
Allez, le Japon.
Moi, je suis pour le Japon aussi. Mais on va le dire après.
Il n'y a pas beaucoup de Japonais. Il n'y a pas beaucoup de Japonais. Mais bon, allez, le Japon quand même.
C'est pas grave.
Moi, je suis pour la France.
On les soutient. Oui, d'ailleurs, tu as toujours annoncé que la France allait gagner cette Coupe du Monde. Et pour l'instant, eh bien, il faut dire.
J'ai pas dit qu'elle allait gagner quand même, n'exagère rien, mais fera une très belle Coupe du Monde. Et elle a très bien commencé.
Oui, au moins finaliste, je crois que tu as dit ça.
Un match soporifique, même qualifié par certains journalistes de purge. Et je suis assez d'accord. On a quand même vécu une petite purge France-Italie. Bon.
Ouais, 32-10, voilà. Deux essais Slimani Mas, deux transformations Michalak, 6 pénalités Michalak et Spedding une pénalité. Bon, ça, il fallait gagner. On a bien commencé, on a bien gagné. Aurélien.
Ouais, une bonne entrée en matière, effectivement. On s'extase un petit peu sur la victoire et sur le score. Le contenu, c'est vrai que c'est encore un peu laborieux.
Ah voilà, merci. Merci.
Mais effectivement, l'objectif principal était la victoire. On l'a fait. Ça nous ouvre une belle finale de poule contre l'Irlande.
Ah oui, celui-là, il vaudra cher.
Voilà, ouais, pour le dernier match. Donc, l'essentiel est fait.
Messieurs, en Coupe du Monde, le contenu, on s'en cogne royalement.
C'est la, surtout c'est... pour un premier match.
Non, mais quand tu regardes... Quand tu regardes hier...
Les All Blacks ont galéré.
Ouais. Non, mais quand tu vois ce match, Nouvelle-Zélande-Argentine, quand tu vois la qualité de jeu, des passes, ça court de partout, c'est des feux follets, des deux côtés, attention, des deux côtés. Et quand tu sais que tu risques de justement de tomber ou la Nouvelle-Zélande ou l'Argentine, suivant que si tu termines premier ou deuxième, puisque tu vas croiser avec ce groupe-là, bon, mais il y a il n'y a aucun rapport entre les deux matchs, quoi.
Alors attends, parce que tu dis...
toute beauté.
On va jouer contre un quoi toute un quart de finale ou un huitième?
Oui, un quart.
Bon, mais on est déjà en demi, alors.
Il n'y a pas de huitième.
On est déjà en demi.
Ouais, il n'y a pas de huitième. Aurélien.
Moi, je suis assez d'accord avec Patrick. Effectivement, quand on regarde les deux matchs côte à côte, effectivement, comme tu disais, on va soit tomber contre la Nouvelle-Zélande, soit contre l'Argentine. Il y a une division d'écart. C'est-à-dire que All Black Argentine, ça court, les ballons sortent vite, il y a de l'impact physique. C'est assez phénoménal. C'est non, sûr que si on n'élève pas notre niveau et si on n'arrive pas à répondre contre ce genre d'équipe, effectivement, on s'arrêtera en quart, je pense.
Non, mais c'est vrai que l'Argentine, ils font tomber des ballons de temps en temps. Mais il y a tellement de volonté d'envoyer aux ailiers, de se faire des passes. Voilà, moi, la France, tu vois pas ça, tu le vois pas. Mais tu le vois pas parce qu'on n'est pas capable. Parce que notre philosophie de jeu, c'est de faire le moins de passes possible et de marteler. Bon. Et c'est une façon de jouer.
Ça peut marcher contre une équipe qui ouvre le jeu, ça dépend. Attention à l'Irlande qui s'impose 50-7 face au Canada. C'est le Canada, mais bon, ils en placent 50 quand même. Donc, on l'a dit, ça sera certainement la finale de ce groupe. On va jouer contre la Roumanie, je crois, prochain match.
Ce mercredi,
voir ce que ça donne, mais en tout cas il fallait gagner, on a gagné, donc c'est déjà une bonne chose. L'Italie, on les met derrière et c'était l'essentiel.
Une triste équipe italienne quand même, Aurélien. Une triste équipe italienne.
Ouais, c'est vrai qu'avec
y compris physiquement, pour moi ils avaient le physique, mais là même physiquement les Italiens vraiment.
Avec l'absence de Paris, ça leur a causé beaucoup de torts, autant dans le jeu et dans la fluidité de jeu que moralement.
Heureusement qu'ils avaient ce talonneur, un talonneur extraordinaire. Ouais. J'ai trouvé l'Italie. Là. Mm. Heureusement qu'ils étaient.
Ils auraient pu prendre Materazzi. Hein, il aurait mis des coups de boule. Ou il les aurait reçus.
Le point noir du match, c'est quand même la blessure de Yohann Huger. Coupe du monde finie. Donc il y en a rappelé en remplacement Rémi Grosso qui est l'élite du Castres Olympique.
Explosif aussi. Hein.
Un novice puisque il est jamais venu en équipe de France, il a zéro sélection. Donc un pari assez risqué. J'espère qu'il aura l'occasion de jouer et de montrer ses talents sur le terrain.
Il va amener de la fraîcheur certainement.
Non, puis c'est une bête. Hein. Moi, je l'ai vu faire un tournoi à 7 là, quelques matchs. Bon, c'est impressionnant.
À 7 dans les roues.
Ah, non, rugby à 7.
Ah d'accord.
Ah oui, je pensais à 7 dans les roues aussi. Ouais. Mm. Quand 7, ils jouent contre 3, mais alors pour donner le score, c'est un bordel total. Les Braves Blossoms, tu sais qui c'est, Patrick?
Qu'est-ce que c'est que ça?
Eh bien, c'est les Japonais.
Ah, d'accord.
Et voilà, ils sont nommés les Braves Blossoms et ils ont signé leur plus grand exploit en Coupe du Monde en battant l'Afrique du Sud 34-32. Donc moi, c'est décidé. Bon, je suis pour la France, je suis français, mais après, je suis pour le Japon maintenant.
C'est la plus grande surprise de l'histoire des Coupes du Monde de rugby. Bon, il faut se souvenir qu'il y a quelques années, je ne sais plus en quelle année, mais les Néo-Zélandais avaient gagné 145, je ne sais pas combien, contre justement le Japon. Donc après, voilà, deux ou trois Coupes du Monde après, ils battent les Sud-Africains. Aurélien le sait très bien, mais il faut quand même, en Afrique du Sud, le rugby, c'est le sport numéro un, mais alors, toute catégorie, il y a le rugby et bon, on peut imaginer le séisme, le tsunami dans ce pays depuis cette
défaite. Ils doivent avoir honte là-bas, Aurélien.
À noter que cette équipe du Japon, ils ont fait venir des entraîneurs étrangers justement pour progresser, pour
des joueurs aussi,
pour inculquer une culture rugby au Japon et notamment l'entraîneur des Avants du Japon, c'est Marc Dalmazo, c'est un Français. Qui a écumé les terrains de première division en France. Donc voilà, ils se sont ouverts aussi sur les entraîneurs.
Donc le Japon, c'est un peu le Qatar du handball, quoi.
Non, mais ils ont des Japonais aussi.
Non, il y a des Japonais, mais bon, savez qu'il y a quand même quelques joueurs des îles. Il y a même le deuxième ligne, là, je crois que c'était un Anglais. Bon, Donc ils sont obligés, mais bon, moi ça me choque pas parce que il y a quand même quand tu vois un pilier là, et un pilier c'était un vrai japonais, donc il faut s'imaginer, il joue contre un pilier sud-africain, en Afrique du Sud la mêlée c'est vraiment quelque chose de ancré dans les gènes, donc il faut imaginer ce japonais qui se retrouve face à un pilier sud-africain. Et donc, il arrive à tordre ce pilier sud-africain en mêlée. Ouais, c'était une image complètement ahurissante.
Laurent dit qu'il paraît qu'ils prennent des photos dans les mêlées.
Ouais, japonais. Des selfies.
Il fallait voir dans les tribunes, tu avais les supporters japonais qui étaient en larmes. Il y en avait même certains.
Mais des Européens aussi. Hein.
Ils ont suivi le match avec le protège-dents dans la bouche.
Par contre, ça complique les ambitions de l'Écosse, qui est dans la même poule.
De l'Afrique du Sud, surtout.
Et surtout l'Afrique du Sud, ouais.
Ouais, mais enfin, l'Afrique du Sud, il va quand même se reprendre et ouais, ça va être au détriment de l'Écosse.
On sait pas. Ouais, mais bon.
Il va y avoir un crack qui va sauter si le Japon confirme.
Après le Japon, ouais, faudra voir.
C'est là qu'on voit que les premiers matchs sont difficiles, hein. Les Néo-Zélandais ont eu du mal, l'Afrique du Sud a du mal, donc c'est bien d'avoir gagné. Les Australiens, ils ont fait quoi? Ils ont joué?
Ils
n'ont pas joué encore, c'est pour ça. Ok, on va suivre cette Coupe du Monde toutes les semaines, bien sûr, dans l'Instant Sport sur 48FM. On va passer rapidement, alors très rapidement, parce que ça fait mal d'en parler. L'équipe de France de basket termine 3e du championnat d'Europe. On va revenir sur cette demi-finale, hein, parce que c'était la tragédie de ce championnat, cette demi-finale qu'on a tous vue. Franchement, bon, on a craqué dans cette demi-finale. On n'a pas vraiment été aidé non plus par l'arbitre. Patrick,
tu avais 11 points d'avance, donc c'est vrai que tu as vraiment beaucoup de regrets, parce qu'on pensait que le match allait être plié. Bon, tu es tombé sur un joueur, c'est vrai, hors norme, 80 points de l'Espagne, il en marque 40. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'après, il y a des chiffres qui sont assez choquants au niveau de la façon dont on a été arbitré, puisque Pogazol a tiré 18 lancers francs, et l'équipe de France, dans sa totalité, en a tiré que 17. Donc, moi, je veux bien, en principe, au basket, c'est un peu comme au rugby, où on essaye d'équilibrer, les arbitres, ils regardent un peu des fois les panneaux, bon, alors, on est à combien de fautes, combien de lancers, bon, les entraîneurs, ils sont là, ils lui disent à la mi-temps ou à la fin du quart-temps, bon, regarde, cher ami, regarde à combien on est, il y a un déséquilibre. Et bon, c'est vrai que toutes les fois que tu touchais Gasol, au moins on a fait l'écart, toutes les fois que tu lui mettais il sifflait. Mais on a vécu pareil en finale. Moi, j'ai regardé un peu la Lituanie. Il y a eu le pivot lituanien qui est aussi un phénomène puisqu'il a été élu aussi dans le 5 majeur avec Pogazol. Dès qu'il touchait Gasol, boum, il sifflait faute. D'ailleurs, comme Gobert, il a été éliminé au bout de 5 fautes. Alors que Gasol joue 39 ou 40 minutes, il fait 2 fautes dans le match. Oui. Alors que bon, on a vu tout un tas, bon, élu. Bon, c'est vrai que ça fait râler, on aurait dû passer, on passe pas, mais c'est vrai que l'arbitre ne nous a pas aidé. Surtout à domicile.
Notre spécialiste basket, les fautes, elles y étaient, elles y étaient pas?
Alors, 90 ou 95% des fautes qu'on a fait sur Pau Gasol y étaient, effectivement. C'est là où on voit, où il a très bien joué le coup, un vieux briscard contre nous, nos pivots qui sont Rudy Gobert, Geoffrey Lauvergne, qui sont un petit peu jeunes, qui ont beaucoup moins d'expérience que lui. Effectivement, là où je rejoins Patrick, c'est surtout sur les fautes qu'il fait lui,
voilà.
qui ne sont pas sifflées et qui empêchent les bonnes circulations de balles ou de marquer les paniers. Là, effectivement, le déséquilibre a été là-dessus. Après, lui, c'est lancé franc, et les lancers francs qu'il a marqués, je pense qu'ils y étaient.
16 sur 18.
16 sur 18, c'est énorme.
C'est énorme.
Ah ouais, après, lui, il les a mis, les lancers francs. Et donc c'est ce qui fait aussi la différence.
Non mais c'est vrai qu'on le disait, les fautes sur Gasol, parce que si Gasol avait eu une troisième faute par exemple, ben le coach en pensant à la fin de match, il aurait sorti. Donc un pot Gasol, 2 ou 3 minutes de jeu en moins, c'est pendant cette période-là, tu aurais pu faire encore un plus gros écart. Et après quand il serait rentré, ben c'était plus compliqué pour lui de revenir, parce qu'il faut dire il a gagné le match à lui tout seul. C'était l'Espagne avait le ballon, boum, on donnait à Gasol et puis après il se démerdait.
Après on a beaucoup parlé de l'arbitrage justement parce qu'on avait perdu dans l'émotion du moment, etc. C'est vrai qu'on cherche des choses auxquelles se raccrocher, mais comme tu le disais tout à l'heure, on entame le quatrième quart-temps avec 11 points d'avance.
Et oui, ça c'est vrai.
Et là, nous, on déjoue complètement dans ce quatrième quart-temps. Ouais. On fait des actions un petit peu trop individualistes. On essaie de sauver la patrie, de faire gagner le match, chacun un petit peu individuellement de son côté. Et je pense qu'on le perd plus à ce moment-là et plus sur ces faits de jeu-là que sur l'arbitrage.
C'est vrai que tu as raison, parce que j'ai vu au niveau stat, dans ce quatrième carton, pendant 3 minutes 30, tu marques 0 point. C'est là où tu parles match.
Alors, la semaine dernière, on parlait de Vincent Collet, ce grand coach. On peut se poser la question, est-ce qu'il n'a pas fait des erreurs sur ce match.
Alors, il n'a pas d'autre fait des erreurs, mais alors, moi, j'entends certains qui disent qu'il fallait sortir Parker. Mais alors, je peux te dire, franchement, si tu es n'importe quel entraîneur, si tu es n'importe quel entraîneur.
Moi, je l'ai dit à Aurélien avant l'émission.
Non, mais si tu es n'importe quel entraîneur au monde, tu sais que tu as Tony Parker, bon, tu vois qu'il est complètement à l'ouest, mais tu te dis, ouais, il a déjà fait 10 dizaines de fois. Et il faut que tu le laisses, parce que dans le moyen temps, il va se réveiller. Donc, tu peux pas lui reprocher. Là. Par contre, sur d'autres joueurs, pourquoi il a pas remis Gélabal au quatrième quart-temps, pourquoi il a pas fait entrer Kahudi, qui est un monstre en défense, qui aurait pu,
c'est exactement ce qu'on disait.
Pas Pogazol, mais, parce que Kahudi va pas marquer Pogazol, mais au moins, le barbu, là, Rodriguez, qui est un formidable, qui a pris de vitesse tout le temps, Tony Parker. Donc là, oui, tu aurais pu faire entrer Kahudi pour bloquer, le meneur espagnol. Donc à ce niveau-là, ouais. Après, quand on me dit qu'il fallait faire entrer Pietrus sur Gasol, bon,
il a fait.
Il se serait fait trouer toutes les fois.
Bon, ça aurait été bien sûr des prises à deux de faire entrer Pietrus.
Voilà. Après, c'est ça ma question. C'est des prises à deux.
Faire sortir Tony Parker, c'est un petit peu difficile parce qu'il est capable d'un coup de baguette magique.
Ça me fait plaisir que tu le dises.
Ouais. De faire changer le cours du match. Après, par contre, sur les systèmes, moi, je déplore un petit peu que les systèmes aient été pratiquement que pour Tony Parker.
Voilà. Là,
et pas pour De Colo, par exemple, qui était en pleine bourre. Ouais. Et c'est vrai que si on joue les systèmes pour lui, et si c'est lui qui prend les shoots, peut-être. Bon, après, on refait le match une fois qu'on a perdu.
Le problème, c'est que sur toute la première partie, on a vu que ça tournait vraiment, etc. Et là, sur ce match, on voit que, bon, on sort par Parker, mais on sait jamais, un remplaçant peut prendre feu, marquer trois paniers d'affilée, comme le remplaçant de Parker. On voit pas Kahudi, on voit pas.
On voit pas
De Colo avec J'ai la balle et trucs. Je pense qu'il y a peut-être eu des erreurs de coaching, comme ça peut arriver. En tout cas, c'est un grand coach, on l'a dit. Et la question des prises à deux, pourquoi on tente pas les prises à deux sur Gasol?
Et surtout, non, mais c'est vrai que je chante mon Luc depuis le début, mais c'est là que si tu avais eu Noah, et oui, tu avais Gobert qui avait les fautes, mais tu faisais rentrer Noah, et Noah il est aussi bon défensivement que Gobert. Alors après, il veut pas jouer pour l'équipe de France, ok, mais si tu avais eu ce joueur, tu te rends compte le turnover que tu aurais mis, la pression que tu aurais mis sur Pogazol,
qui était seul lui.
Gobert avec deux fautes, bon, tu faisais sortir, tu faisais rentrer Noah avec deux fautes. Je peux te dire que je pense que le match aurait été différent.
Oui, mais si l'Espagne avait eu Marc Gasol, ils auraient fait sortir pour faire entrer Marc Gasol, et c'est pareil. Aurélien.
Ouais, c'est vrai que sur les prises à deux, on aurait pu le tenter, mais le problème de l'Espagne, c'est eux aussi, ils avaient des absents. Mais si on marque, même quand on marque Gasol sur une prise à deux, derrière, ils ont des joueurs qui sont capables de shooter de loin, de prendre les espaces. Donc c'est vrai que c'est une tactique qui peut être aussi périlleuse de faire les prises à deux. Tu parlais de Noah, sans revenir sur l'affaire Joachim Noah. C'est là aussi où tu te rends compte que les blessés qui étaient dans le groupe et qui ont dû déclarer forfait juste avant l'Euro, comme Agensa par exemple,
qui est aussi grand que Gobert,
le pivot de 2m15, et Antoine Diot qui était justement la doublure de Tony Parker et qui aurait pu faire beaucoup de bien justement. Maintenant qu'on sait que Tony Parker a fait un petit peu un tournoi en dedans, c'est vrai qu'il aurait pu faire du bien sur les rotations et c'est là aussi qu'on peut regretter ces deux blessures qui de deux cadres.
Alors, tout à fait. Ce qui va être compliqué maintenant, c'est que pour viser les JO de Rio, il faut faire le tournoi pré-olympique.
Eh oui.
Sachant que qui dit tournoi pré-olympique, c'est-à-dire toutes les nations, c'est pas que l'Europe. Il y a quatre poules, il faut terminer premier de sa poule, sachant qu'il va y avoir l'Argentine qui est pas qualifiée, le Canada avec ses stars NBA, la Serbie qui va être là. Ouais. Enfin, qu'on soit au JO de Rio,
c'est compliqué.
Après, on sera peut-être, on sera dans les têtes d'affiche.
Il faut voir dans quel pot tu tombes.
Ouais, voilà.
J'ai une question sûrement un peu naze pour vous, les mecs, mais pas pour les auditeurs. Qui a gagné le championnat d'Europe de basket?
L'Espagne.
C'est l'Espagne.
Donc, qui s'est baladé contre le champion d'Europe.
Qui s'est baladé en finale contre la Lituanie, il n'y a quasiment pas eu de match.
C'est pas honteux de perdre
Pogazol,
contre le champion.
Pogazol a marqué 25 points, donc 40 points en demi-finale et 25 points en finale.
Il était temps que ça s'arrête alors. Parce que...
Ouais, il a eu que deux fautes tandis que l'autre pivot en avait 5.
Voilà.
J'ai vu
le pivot lituanien est sorti au bout de 5 fautes, le même sort que Gobert, alors que Pogazol n'avait quasiment aucune faute. Il a absolument pas été gêné pendant la finale par les fautes, comme il n'a pas été gêné par les fautes en demi-finale.
Il était protégé.
Pour les petites anecdotes de l'Euro, il faut savoir donc on a un Français dans le meilleur 5, de la compétition, c'est Nando De Colo. Qui a été élu dans le meilleur 5 de la compétition.
Et parce que Pogazol a la même place que Gobert aussi, sinon il y était Gobert.
Voilà. Et il faut savoir aussi que l'équipe de France, c'est la seule équipe du championnat d'Europe qui n'a perdu qu'un seul match, qui perd sa demi-finale. Toutes les autres équipes, soit en poule, soit un peu plus loin, ont au minimum perdu un match. L'équipe de France, c'est la seule équipe qui a perdu un match et qui fait une médaille de bronze.
Et en prolongation. 13h33, les amis, qu'est-ce qu'on fait ? On pousse un peu pour parler du spectacle de cirque d'hier. Laurent ?
Bon, non, on peut dire un petit mot. Je veux dire, pour une fois, Lyon n'est pas venu gagner à Marseille.
Ben, comme l'année dernière, puisqu'il y avait 0-0.
Ouais, mais sinon, c'est vrai que triste spectacle de voir que Valbuena a été sifflé. Même des insultes assez violentes dans les tribunes avec des mots forts. Et donc, c'est pas digne de l'Olympique de Marseille. Même si c'est toujours frustrant de voir un de ses chouchous partir chez un club concurrent en Ligue 1, mais bon, ça se fait pas, quoi.
Non, ce qu'on peut dire, c'est vrai que c'est choquant, mais au niveau des supporters, moi, il faut bien faire la différence entre les catégories de supporters à Marseille. Il y a une certaine catégorie qui supporte Marseille. Leur métier, c'est quoi ? C'est être supporter de Marseille. Mmh. Ils sont salariés ou du club, il faut le savoir, ou des associations de supporters. C'est-à-dire que les mecs, ils ne bossent pas. Leur vie, c'est être supporter de Marseille. Et donc, tous ces mecs-là, toute la journée, ils pensent, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, quand ils voient ça, Valbuena, ça fait quoi ? Ça fait un mois, depuis que Valbuena a signé à Lyon, ils calculent jour après jour, seconde après seconde, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à Valbuena ? Et ces mecs-là, ils cherchent le bordel. Parce que pour eux, au plus c'est du bordel, au plus ils font peur, au plus ils gardent les abonnements, la gestion des abonnements. Parce que pourquoi il faut garder la gestion des abonnements ? Parce que c'est ça qui les fait vivre. Parce que c'est de ça que les associations récupèrent l'argent. Et c'est grâce à ça que leurs salaires sont payés. Donc il y a cette catégorie-là de supporters de Marseille, moi, qui m'énerve au plus haut point, et donc entraîne tout un tas de jeunes derrière eux, qui leur font faire n'importe quoi. Et puis après, il y a l'immense majorité de gens. Il y avait des Losariens, hein. Moi, je sais qu'il y a des Losariens qui étaient au match à Lyon, au stade de Vélodrome hier. Mais c'est pas eux qui vont voir des matchs de temps en temps. C'est pas eux qui ont balancé les canettes en verre sur... d'ailleurs, c'est même pas sur Valbuena, parce que c'était sur le gardien au moment où il y a certainement pénalty sur Mendy. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où le match est arrêté. Mais voilà, c'est pas ces supporters-là. C'est pas nous qui aimons Marseille, qui regardons les matchs à la télé, qui allons quelquefois au stade parce que voilà, on va avoir des places à ce moment-là, c'est pas nous qui foutons le bordel, c'est cette minorité de supporters qui vit de ça et qui entretient ce bordel, parce que c'est grâce à ce bordel qu'ils peuvent justement vivre en étant supporters.
C'est ce qu'ils ont fait déjà dans la semaine en Coupe d'Europe. Je sais pas si tu as vu les images, Patrick. Là, alors je sais plus quel pays c'était, aux Pays-Bas.
Ouais.
Où ils ont saccagé des bars, des
voilà,
trucs, ils ont
c'est fait. Ça.
Et alors, ce que je trouve encore plus regrettable, c'est qu'ils balancent les vidéos eux-mêmes. C'est leurs vidéos qu'ils balancent sur Internet comme si c'était un trophée. Non, c'est pas beau pour...
c'est pas beau, bien évidemment.
Pour le foot français, pour l'OM, pour tout. Et puis, bon, voilà, c'est comme
après,
ça.
Après, sur le match, tu as vu un
que
match...
Faire, que faire.
Tu as vu un match, à mon avis, qui était d'excellente tenue. Hein. Il aurait pu... Lyon aurait pu marquer 2-3 buts de plus. Marseille aussi aurait pu marquer 2-3 buts de plus. Ça aurait pu basculer d'un sens ou de l'autre. Bon, moi j'ai vu un bon match au niveau du football avec des équipes françaises, bien sûr, qui ont toutes leurs failles. Hein. C'est sûr que Lyon, en jouant comme ça, ils n'auront pas loin en Ligue des Champions. C'est une évidence. Si Marseille est en Ligue des Champions, c'est sûr qu'il n'y a aucune possibilité de finir dans les deux premiers avec une équipe comme ça. Mais voilà, pour le championnat français, on a vu, à mon avis, un bon match de football. Après, sur l'arbitre, on peut dire ce qu'on veut. Le carton rouge, oui, bon, c'est vrai.
Il y a
un tacle par derrière, aucun problème. Après, tu écoutes du Gary, il fallait qu'il mette 3 cartons rouges en première mi-temps. Donc là, le match, par contre, se serait arrêté assez facilement. Ouais. Parce qu'à 7, tu peux plus jouer. Ouais. Donc bon, déjà, s'ils avaient fait 3 cartons rouges, ça faisait 8. Donc bon, voilà. Mais après, ça me fait marrer quand je vois... Ouais, c'est vrai, du Gary, j'aimerais vraiment lui parler un jour en lui disant il faut qu'il arrête de commenter l'OM. Il a certainement un problème avec Marseille. Il est aigri, il a joué, il a été maltraité. Il s'est fait virer. Bon, il a pas encore digéré. Donc, il faut qu'il arrête, qu'il commente plus Marseille. Il nous énerve plus.
À Montpellier,
Voilà quoi. Bon, pendant tout le week-end, j'ai entendu c'est un scandale d'avoir sifflé une faute contre Nyama. Il y a pas penalty. Il retire ses mains, etc. Pourtant, il y a un contact incontestable entre l'attaquant de Rennes et Nyama. Bon, ben Mandanda aussi retire ses mains. C'est vrai, il y a un contact. Même Lacazette à la fin du match dit j'ai bien joué le coup. J'aurais pu rester debout, mais bon, voilà, il m'a touché, je suis tombé. Donc bon, il y a des arbitres qui auraient pas sifflé, bon, après tout ça, c'est un peu. Mais voilà, quand j'entends un mec comme Dugarry faire un commentaire pendant 90 minutes après le match, il faut qu'il arrête, il faut l'enlever, et, voilà, qu'il commente Paris, Lyon, et puis voilà, c'est tout.
On va l'inviter, Dugarry.
Ouais, faut l'inviter. Ouais.
Ça serait pas mal. Je sais pas s'il va vouloir venir, mais. Mais on devrait l'inviter. Ouais, en attendant, c'était une belle fin de partie après cette pause.
Il y a eu un joli match. Il y a eu un joli match.
C'était joli. Le penalty y était peut-être pas. Je te l'accorde.
Mais il y a un contact. Mais il y a des arbitres qui l'auraient pas sifflé. Bon, voilà.
Après, un arbitre
après,
qui
retire ses mains. Il retire ses mains. Après,
qui est joueur, il siffle pas.
Non, mais la première erreur.
La première erreur.
La première erreur, c'est Mandanda. Bon, il n'a pas à sortir.
Pas si loin, ouais.
Pas si loin, parce qu'en plus, il est décalé, il n'y a pas action de but, ouais. Il y a un défenseur qui est là, donc il peut intervenir. Donc la sortie
sachant
de Mandanda.
Sachant que la casette n'est pas gaucher.
Voilà, exactement. Donc la sortie de Mandanda, elle est inutile à cet endroit du terrain. Donc la première erreur, c'est Mandanda qui l'a fait. Mais après, bon, tu le vois bien, il retire ses mains, bon, voilà. Tout peut être interprété, c'est le problème de l'arbitrage, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup à chaque fois.
Le président de l'OM a soulevé le fait que.
Qui ça, le guignol?
Voilà. Le président de l'OM.
Ça, on pourrait revenir aussi sur les déclarations d'Aulas.
Le fait que Lyon avait beaucoup de pénalties, il trouvait ça étrange. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais les stats sont là. Les stats sont là. Tu as eu deux pénalties sur l'ensemble de la saison dernière. Tu as Lyon qui en a 12 ou 14. Au niveau des cartons rouges, c'est pareil. Marseille a beaucoup plus de cartons rouges que Lyon. Voilà, c'est un fait. Quand il dit ça, c'est incontestable.
Oui, mais alors, quand après, il dit ça, il pense à autre chose derrière. Mais,
tu connais le poids de Jean-Michel Aulas dans le football français.
Est-ce qu'il va trop loin, Aulas, là, en traitant?
C'est clair. Non, mais attends, mais t'entends ce qu'il dit. Il faut arrêter le match.
Pour la sécurité, non, attends, Mignol,
attends, est-ce qu'il y a un joueur qui a été blessé? Est-ce qu'il y a des supporters qui ont été blessés? Non. Donc voilà, tu as quelques abrutis qui ont balancé des bouteilles, Marseille sera sanctionné, tu vas certainement avoir des matchs à huis clos, mais ça sera bien fait pour toi. Mais sur le coup, il n'y a aucune raison de mettre un terme final au match. Il n'y a pas une bagarre rangée dans les tribunes, il n'y a rien de tout ça.
Il gagne 1-0, donc pour lui...
Non, mais il perd un peu quand même un peu de crédibilité en faisant ce genre de déclaration. Voilà, alors que le match est pas encore terminé. Quoi.
Ça fait un moment qu'il en perd Aulas de la crédibilité, voilà. Malheureusement. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Si Aurélien.
Je voulais juste rajouter, j'ai entendu ce matin que donc suite aux incidents au stade Vélodrome de hier soir, il parlait de remettre les filets de protection justement au stade Vélodrome pour empêcher tous ces jets de bouteilles sur le terrain.
Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Oui.
À Bastia aussi, il y a eu des incidents du coup qui sont un petit peu masqués par ce qui s'est passé à Marseille, qui est plus médiatique.
Avec Nice, non, c'est.
Avec
Nice.
À la fin du match, il y a des supporters bastiais qui se sont frités avec les CRS.
Ok. Oui.
Et à Caen, qu'est-ce qui s'est passé en fin de match à la dernière minute?
Rien.
Il y a le fils Nicolin qui a
craqué.
Voilà. Qui est tombé du banc.
Ouais, je n'en parlerai pas. Je n'ai rien à dire à ce sujet-là. C'est très triste ce qui arrive à Montpellier, mais ça va changer. Ouais, sinon, rien à dire. Si, à part peut-être que, quand on voit le classement quand même, bon, Paris 1, Rennes 2, Saint-Etienne 3, Caen 4, Reims 5, Angers 6. C'est un peu étrange.
Mais on sait
très
bien que les petites équipes
marchent au début.
Marchent bien au début parce qu'ils donnent tout.
Mais non, Marseille est 12e.
Ouais, non, mais les petites équipes style Reims, Caen, Angers. Ouais, je dirais Rennes, plus ou moins. Ils donnent tout au début. On sait très bien que dans deux mois, ces équipes-là, elles seront entre la 8e et la 12e place. Et en fin de saison, ils seront pas loin du fond du fait-tout, quoi. C'est sûr. Donc il ne faut pas s'emballer, mon cher Ludo.
Allez, on finit rapide. Francesco Totti inscrit son 300e but sous le maillot de la Roma. Le dieu vivant de la Roma, 300
c'est le,
buts.
C'est le dernier à avoir fait toute sa carrière dans le même club. Je ne sais pas si, à mon avis, je ne vois pas d'autres exemples actuels de joueurs à avoir fait toute sa carrière, peut-être Messi, hein, oui, peut-être Messi.
Pour l'instant, Messi.
Messi, ouais. Pour l'instant, Messi.
Il y avait Valbuena,
voilà,
mais.
Bon. Donc, chapeau, hein, tu restes à vie dans le même club. C'est de plus en plus rare et ça sera de plus en plus rare.
Ouais. Quel âge il a
37 ou 38
37, je crois, ouais.
Il a commencé à 18.
C'est un classeur avec Messi.
17 ou 18, ça fait. Je crois que ça fait 20 ou 21 saisons qu'il joue en première à la Roma.
C'est ça. Allez, dernier mot, Ligue des Champions handball, les clubs français à la traîne. Hein, Montpellier qui perd 25-30 à Vardar Skopje. Je pense que ça se dit comme ça. Flensburg, Paris, 39-32. Voilà, mais à noter que les deux favoris, Barcelone et Kiel, ont été également perdus. Voilà, ça démarre mal pour les clubs français, des champions.
Montpellier, ça va être dur, à mon avis.
Montpellier, ça va être dur, mais.
Pas l'effectif pour rivaliser. Après, Paris, bon.
Paris, j'ai vu le match, c'était un scandale.
Hein. Paris, bon, aucune défense. Donc, à partir de là, au handball, tu peux pas lutter.
Ouais, absolument. Aurélien, on ne te voit pas la semaine prochaine, tu pars bosser à Paris.
C'est ça, tout à fait, j'y suis pour la journée.
Voilà, on te verra dans deux semaines, et dans deux semaines, c'est Patrick qui ne sera pas là.
Et non.
Heureusement qu'il y a mon petit bonhomme qui reste là à chaque émission.
C'est pas sûr, j'attends de voir qui sera les prochains invités, et puis
ouais.
Non, je serai là.
Prochain invité, oui, on va voir ça.
Ça dépendra de l'ENL, si Vivien marque un but aussi, peut-être.
Et oui, peut-être qu'il s'il marque son troisième but, on l'évitera.
Voilà.
Ok, merci les gars. Allez, à lundi prochain, même heure.
Bye bye.
Bye.
Ciao.
C'est Leslie John au couloir numéro 2. Allez, Leslie. C'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Victor Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du tapis apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du tapis apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
FM, la radio pop rock de la Lozère.
La radio pop rock de la Lozère.